suite la chronique du Grand Large, dirigée par Patrick Simon en direct. Patrick, ce soir, vous n'allez pas nous parler des élections municipales, mais d'un tout autre sujet, le bilan de la guerre en Iran.
Oui, c'est cela. Bonsoir Claudia. Bonsoir. Et bonsoir à tous. Alors, j'entendais l'autre jour l'émission Commentaire. C'est sur Radio Classique, Jean-Marie Colombani, ancien directeur du Monde, et Jean-Claude Casanova. Et il y avait un ambassadeur, l'ambassadeur Duclos, qu'on voit souvent sur les plateaux de télévision, qui s'exprimait et qui développait un scénario catastrophe en décrivant les initiatives de Donald Trump comme maladroites, mal préparées, et qu'il allait revenir ballot, carrément ballot. Et ce matin, avec Christian Macarian sur la même radio, c'était un peu le même son de cloche, quoique plus modéré. Alors, ces descriptions sont fausses. Elles occultent la réalité. Et pour rétablir la vérité, je me suis reporté aux articles de mon ami Guy Millière, qui vit aux États-Unis et qui est donc mieux informé sur les actions du gouvernement américain. Et voici donc le bilan de 14 jours de guerre, de 15 jours de guerre. En deux semaines, les forces israélo-américaines ont obtenu des résultats significatifs. Et je vais les récapituler. On peut en énumérer 9. Premièrement, les armes du régime iranien ont été largement détruites. Leur marine n'existe plus. Ils avaient 11 navires et sont tous au fond de l'eau. Leur aviation n'a plus aucun moyen puisque leurs avions ont été tous, sauf un, bombardés au sol. Et le dernier, il a été détruit par les Israéliens. Donc, s'ils ont été bombardés au sol, ça veut dire qu'ils n'ont même pas pu décoller. Et c'est pourquoi Tsahal déclarait « le ciel est à nous ». Les rampes de lancement de missiles ont été détruites à 75%. Et c'est avec les 25% restants qu'ils continuent d'envoyer des missiles sur Israël ou sur d'autres. Mais ils le font beaucoup moins qu'avant, car leurs réserves s'amenuisent progressivement, de sorte qu'il y a une baisse de 80% des tirs de missiles. Enfin, les galeries souterraines ont été mises hors d'usage, grâce à des bombes qu'on appelle bunker buster. Et en plus, ils n'ont plus de radars, ni de moyens de communication entre unités, sauf les téléphones par satellite, mais il n'y en a pas un nombre infini. Les membres du Basij, vous savez, le Basij, c'est cette organisation horrible qui est chargée de la répression des manifestants et qui tire sur les manifestants, entre les yeux, a conseillé le guide suprême. Donc, ces membres du Basij sont petit à petit éliminés par des tirs israéliens dès qu'ils sortent des trous où ils se cachent. Ils ne sont plus payés, car la banque SEPA ne verse plus les salaires, ce qui peut entraîner des défections parmi eux. Ça, c'est le premier point, il n'y a plus d'armes ou très peu. Deuxièmement, tout se passe comme prévu et dans le temps prévu. Deux semaines seulement, il n'y a pas lieu de se plaindre de cette durée de deux semaines. C'est quand même pas les 4 ans de la guerre en Ukraine. Et grâce à ces initiatives, le génocide d'Israël par le régime iranien a été empêché. Grâce aux destructions que je viens d'énumérer, il n'y a pas d'enlisement. Troisième point positif, les chefs du régime iranien, du régime des Mollahs, sont morts, de sorte qu'il n'y a plus de pilotes dans l'avion et que les gardiens de la révolution agissent en ordre dispersé, un peu comme un canard sans tête, si vous voulez. Un jour, ils viennent s'excuser d'attaquer Dubaï par le président, et puis finalement, quelques heures après, ils attaquent à nouveau Dubaï. Et donc, il y a une désorganisation manifeste. Quatrièmement, la guerre n'a pas été étendue. Elle est limitée à l'Iran et à ses alentours. Elle ne s'est pas étendue à l'ensemble de la région, car les pays voisins qui ont été attaqués par les missiles iraniens et les drones iraniens se sont finalement rangés du côté américain. Alors ça, c'est une erreur majeure des Iraniens, car les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Oman, avaient pris une position plutôt prudemment neutre, disons, avant l'intervention américaine. Et le fait qu'ils aient été attaqués par des tirs de drones, de missiles et de drones, les a fait changer d'avis, et maintenant ils ont subi, ils sont passés du côté américain, et après avoir subi des dégâts, enfin des dégâts qui restent mineurs. Cinquièmement, les avoirs iraniens dans les pays du Golfe ont été saisis. Et parce que oui, ce régime terroriste transférait beaucoup de ses avoirs, des biens qu'il avait spoliés, en dehors d'Iran et dans les Émirats. Sixièmement, le prétendu blocage du détroit d'Ormuz n'est pas un blocage, je l'ai déjà dit. Et c'est simplement que comme les assureurs risques de guerre ont déclaré ne plus couvrir les navires et leurs cargaisons s'ils passent ce détroit, et s'ils entrent dans le golfe Persique, eh bien, plus personne n'ose y entrer. Sauf, paraît-il, les transporteurs chinois qui ont absolument besoin du pétrole iranien et qui le font à leurs risques et périls, mais sans assurance. C'est quand même périlleux de s'aventurer dans ces parages sans assurance. À noter d'ailleurs que les Iraniens se tirent une balle dans le pied en prétendant bloquer le détroit, car ce prétendu blocage reviendrait à empêcher leurs exportations de pétrole vers la Chine, justement. Alors, certes, toutes ces rumeurs ont un effet négatif en ce sens qu'elles provoquent une hausse des prix. Et pour y remédier, les Américains ont prévu d'escorter les navires et de se substituer aux assureurs par un organisme. Alors écoutez bien ça, parce qu'on n'en entend pas parler du tout en France. L'organisme s'appelle le US Development Finance Corporation. Et les Américains ont dit que cette organisation indemnisera en cas de perte du navire ou de perte de la cargaison ou des deux ou de dommages au navire, indemnisera à la place des assureurs. Et donc, on peut le noter, le marché a spontanément trouvé une solution. Et c'est celle de US Development Finance Corporation. Donc, beaucoup de médias français cultivent l'inquiétude. Ils ne relayent pas, par exemple, cette information que je viens de vous donner. Et ils parlent de la résistance, entre guillemets, de l'Iran. Ce qui est, à mon avis, bien exagéré. Septièmement, les immeubles des gardiens de la Révolution ont été détruits, ainsi que toutes les entreprises et les usines qui fabriquaient de l'armement. Et les casernes ont été détruites, les commissariats de police ont été aussi, les checkpoints où se trouvaient les miliciens des gardiens de la Révolution ont été ciblés et détruits. D'ailleurs, ça montre une chose, du côté israélo-américain, on sélectionne les cibles contre les ennemis. Et alors que du côté du régime des Mollahs, on tirait, parce que maintenant c'est beaucoup moins, on tirait à l'aveugle, donc avec le risque, et même parfois la volonté, de tuer des innocents, des civils innocents. Ça fait, à mon avis, une différence substantielle entre les deux objectifs. Les Iraniens ont essayé de miner le détroit d'Ormuz, mais les bateaux qu'ils avaient cachés dans des endroits spéciaux, les bateaux poseurs de mines, ont été détruits, de sorte que le détroit d'Ormuz n'est pas miné et que les bateaux, les navires, peuvent y entrer, c'est à condition d'être évidemment escortés. Huitièmement, il n'y a aucune surprise à constater la détermination à survivre d'un régime totalitaire et fanatique. Aucune surprise. Les Américains s'attendaient bien à se heurter à cette détermination. Donc rien n'a été sous-estimé, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Les Israéliens, comme les Américains, disposent d'excellents services de renseignement. Et la preuve, c'est que justement, ils ont localisé et ciblé les chefs du régime dès le premier jour. C'est bien la preuve qu'ils étaient très bien renseignés et qu'ils savaient comment le régime iranien était organisé. Neuvièmement, dernier point donc, le prix du pétrole monte. Mais c'est le cas dans toutes les crises mondiales. En mars 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien le prix du pétrole avait atteint 130 dollars. Aujourd'hui, il est monté à 100 dollars. Donc, c'est vrai, le prix monte, mais on ne peut pas dire qu'il s'envole, alors qu'on entend souvent cette propagande, que le prix du pétrole explose, que ça va être affreux pour nous. Non. D'ailleurs, le monde occidental a peu besoin du pétrole iranien qui part généralement vers le sud-est asiatique et vers la Chine. Voilà les informations que je voulais donner et j'en conclus que le bilan de cette guerre de 2 semaines est largement positif à ce jour.
Merci Patrick, on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure en direct.
Au revoir.
Au revoir. Tout de suite, le Libre Journal du lundi soir dirigé par Romain Petitjean.
Le Libre Journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, c'est un plaisir de vous retrouver pour une émission qui se passe le lendemain du premier tour des élections municipales. Nous allons évidemment en parler. Je suis entouré de Pierre Leprince, de Gabriel Fouquet. Comment allez-vous ?
Bien et vous, Romain ?
Merci, fidèle au poste. Et je reçois Marcel G, qui est auditeur de la promotion Isabelle de Castille de l'Institut Iliade, et Jacques Fierbois de la promotion Ulysse, donc ce sont des stagiaires, des promotions en cours. Ils viennent d'ailleurs de faire leur quatrième week-end consacré à séminaires et stratégies, donc essentiellement de la géopolitique. Ils sont avec moi sur le plateau de Radio Courtoisie pour évoquer différents sujets. Les municipales, nous allons en parler. Le thème ô combien précieux des libertés, qui sera celui du prochain colloque de l'Institut Iliade le 11 avril. Nous allons commencer un peu à défricher le sujet. Et nous allons parler aussi du phénomène, alors on va voir s'il est massif, marginal, anecdotique, d'une sorte de retour en grâce d'un certain nombre de groupes populaires enracinés qui passent finalement un peu sous les radars des médias mainstream. Alors les élections municipales, il y a évidemment tout un tas d'enseignements qu'on peut tirer. Je voudrais rappeler le mien, je vous en avais déjà parlé lors de la dernière émission. Et c'est une forme de rappel, la politique commence le lendemain des élections. C'est-à-dire quand tout le monde a la gueule de bois, que tout le monde a pu faire son pari sur son petit cheval. Est-ce qu'il est arrivé en première, deuxième ou troisième position ? Toujours est-il qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas une personne extérieure à vous qui va s'occuper de défendre votre foyer, de vous nourrir sainement, d'éduquer vos enfants. Donc c'est pour rappeler que la politique, le politique est tout à fait dans vos mains, même si les élections sont intéressantes. Alors les enseignements, c'est que l'abstention reste relativement élevée, que des candidats qui font l'objet de commentaires sur les plateaux de télé ne représentent souvent, alors qu'ils sont arrivés qu'en première position, 10, 15, 20% à peine de la population. Donc ce n'est pas toujours très représentatif. On peut dire également que dans l'ensemble, les sondeurs, là aussi c'est une passion française, dans l'ensemble ne se sont pas trop trompés. J'ai regardé, la plupart des prédictions se sont révélées exactes. Également, ce qui était prévu par ceux qui suivent de près l'actualité politique,
là, vous avez vu cette rue, de toute façon-là.
C'est que contrairement à ce que un certain nombre d'états-majors de partis a pu dire, comme prévu, la gauche socialiste va s'allier au LFI, et c'est ce qu'il fait, la force de la gauche dans ce pays, ils le font à la fin. Ils s'envoient des noms d'oiseaux pendant les campagnes, et à la fin, ils se retrouvent, ils s'allient, ce que la droite a évidemment beaucoup de mal à faire. Et justement, côté de la droite, je voulais faire un petit focus sur un compte Twitter qui est celui de Paul Sébille, qui suit très bien les différents statistiques remontantes du pays, et il nous rappelle que le résultat moyen des listes RN selon la taille des communes est assez intéressant, puisqu'en fait plus la commune est petite, plus le taux moyen de vote pour le RN est élevé. Pour les villes de 3000 à 5000 habitants, qui représentent quasiment la majorité des villes, je crois qu'on est à combien, 32 000 communes en France, hein, il me semble, représentent un taux moyen de vote de 30%. Ça descend à 27% pour les villes de 5 à 10 000 habitants, de 26% de 10 à 20 000 habitants, de 21% pour les villes de 20 000 à 50 000 habitants, et ça chute à 14% en moyenne, c'est quand même en augmentation de 0,5 points, pour les villes de 100 000 habitants et plus. Alors, évidemment, vous pensez tous à la ville de Nice, à la ville de Marseille, où M. Alizio va se retrouver face aux socialistes, et Martine Vassal se maintient, donc on pourra évidemment en parler. Est-ce qu'il y a des tendances qui se révèlent dans tout ça? Alors nous avons un premier témoignage tout à fait intéressant, puisque nous allons avoir au téléphone la tête de liste de la liste Rassemblement National Normande d'Alençon. Pourquoi c'est intéressant d'avoir Monsieur Piloquet au téléphone? C'est que c'était la première fois, je crois, hein, j'espère ne pas me tromper, il me corrigera, qu'il y avait une liste Rassemblement National au sud de la Normandie, dans un endroit tout à fait particulier qui subit la désindustrialisation, qui a connu une immigration galopante ces derniers temps, et qui fait même face aujourd'hui à des trafics. Je vous rappelle que les trafics, notamment, ont quitté les grandes villes pour aujourd'hui s'étendre dans absolument tout le territoire, dans nos petites campagnes. C'est dans ce contexte-là que s'est menée la campagne. Est-ce que, Oscar, vous nous entendez, Monsieur Piloquet?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous sur Radio Courtoisie. Alors, je n'ai pas dit d'erreur quand je dis que c'était la première fois que le RN était présent dans la ville d'Alençon?
Tout à fait, oui. J'ai mené la première liste de ma famille politique, le Rassemblement National, aux élections municipales à Alençon, où, aux précédentes élections, c'était un duel entre une gauche et une droite modérée et une liste d'extrême gauche qui était on va dire, présenté à chaque élection. Et donc là, c'est une nouveauté. Et ben, je suis fier d'avoir cette nouveauté, mais elle est effectivement intéressante comme objet d'étude. Et je suis heureux d'en discuter avec vous.
Alors, en gros, vous avez fait combien de voix, et ça représente combien de pourcents, et comment la suite s'annonce pour vous?
Donc, à l'unisée près, j'ai obtenu 19% des voix. Donc, je suis distancé par une candidate de centre-droit qui est bien implantée et mieux que moi depuis 10 ans. Mais l'eau de satisfaction, c'est que je dépasse la liste d'hiver gauche soutenue par le maire sortant. Et donc là, je me dirige vers une quadrangulaire, donc en ballotage défavorable, mais comme potentiellement la première liste d'opposition, en sachant que la liste d'hiver gauche de la majorité sortante est située à 17%, et celle de l'extrême gauche est située autour de 15%.
Donc là, vous avez pu déjà, en 24 heures, avoir un aperçu de l'électorat qui s'est porté vers vous? Vous avez une idée, en scrutant un peu les bureaux de vote, d'une sociologie? Est-ce qu'elle est originale à Alençon ou pas?
Alors oui, à Alençon, elle est circonscrite au quartier populaire de Courteil, qui est situé à l'est, à la périphérie de la ville. Donc c'est évidemment un quartier où il y a une population native plus importante que dans le quartier de Persigne, par exemple, où on a plus des habitants issus de l'immigration. Et effectivement, j'ai gagné deux des 20 bureaux de vote dans ce quartier précis. Et ça a effectivement créé une dynamique pour notre liste RN vraiment qui est particulière, supérieure au bureau de vote du cœur de ville, où nous sommes plus en rentrée comparé à la candidate de centre droit et aussi à la liste d'extrême gauche, dont la sociologie est d'ailleurs principalement en reflet, on va dire, de la liste de centre droit.
Donc on sait que les élections, c'est la sociologie hein, qui peut jouer énormément. Est-ce qu'il y a tout de même eu, au cours des débats, au cours de cette campagne, des grands projets, des grandes orientations qui ont permis à des programmes de se confronter réellement? Est-ce qu'il y a eu un réel débat d'idées programmatiques? Ou est-ce que, comme on peut malheureusement le constater dans d'autres villes, on est plus sur une capitalisation autour de l'image, ou que ce soit du candidat ou du parti? Est-ce que là, il y a eu un débat d'idées?
Je pense qu'il y en a eu un, oui. Alors, j'ai travaillé autour d'un programme local, c'est-à-dire, j'ai pu notamment, vous parliez de mesures phares, on a un beau monument historique, la halle au blé, un bâtiment circulaire, où je veux instituer une halle gourmande pour créer de l'affluence en cœur de ville, car c'est un vrai sujet pour les commerçants, pour les habitants, car il y a un peu, comme dans toutes les villes moyennes, vous savez, cette déperdition, mmh, avec des commerces qui ferment, et à l'inverse, des épiceries ou des barbershops qui ouvrent. Donc évidemment, c'est un thème qui est important, je dois dire, comparé à d'autres campagnes municipales qui ont été très tendues, avec des noms d'oiseaux, la nôtre a été plutôt de bonne tenue, et on a pu confronter nos idées, et je suis fier en tout cas d'avoir pu m'appuyer sur des colistiers vraiment enracinés dans le paysage, qui ont chacun pu apporter leur pierre à l'édifice sur le sujet, du commerce, mais aussi sur le sujet de la santé. J'ai un médecin qui est membre du parti de l'UDR, et évidemment sur le sujet de la sécurité, de l'éducation. Donc au final, j'ai pu transposer sur le plan local notre combat pour le Rassemblement national.
Donc quoi qu'il arrive, et on vous souhaite une bonne fin de campagne, vous rentrez donc au conseil municipal. En deux mots pour les auditeurs qui sont aussi électeurs de Radio Courtoisie, quand on rentre au conseil municipal, même dans l'opposition, on se choisit une forme de délégation, on intervient sur des thèmes en particulier, ou vous avez vocation, en tant que tête de liste, à prendre la parole sur tous les sujets?
Alors, effectivement, il y a une différence entre les conseillers municipaux de la majorité, dont certains disposent d'une délégation, ils peuvent être adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, donc eux, ils sont vraiment effectivement dans la prise de décision, dans l'exécutif local, et il y a les conseillers municipaux d'opposition, qui eux subissent, on va dire, plus ce qui est mis en place par la majorité, puisque le mode de scrutin en France favorise quand même permet quand même de dégager une majorité claire. Mmh. Et donc, voilà, moi, je n'ai pas envie de présumer, évidemment, de l'issue, mais selon cette issue, soit je serai effectivement le chef de l'exécutif local, soit je serai plutôt un conseiller municipal d'opposition qui aura davantage, je dirais, plutôt un rôle de lanceur d'alerte, d'observateur, pour essayer de faire valoir le programme que nous avons défendu lors de cette campagne et d'être attentif sur des possibles dérives, comme on a pu en voir. Et voilà, on peut s'appuyer sur vraiment l'action de conseillers municipaux d'opposition dynamique, médiatisée. Je pense à Isabelle Surplis, qui est un bon exemple, qui a mis vraiment à profit ce mandat pour mettre en lumière des défaillances de la part de la mairie de Saint-Chamond, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc moi, si c'est la situation dans laquelle je serai, voilà, j'assumerai ce rôle d'opposition, évidemment de manière exigeante, constructive.
On n'y est pas encore, il y a de grandes chances que vous alliez jusqu'au bout, évidemment. Alors justement, avant de se quitter, est-ce que vous avez déjà fixé un cap pour cette campagne de deuxième tour? Quel message vous allez envoyer aux électeurs, soit ceux qui sont restés chez eux, soit ceux qui peuvent basculer de votre côté d'une certaine façon?
Alors, moi, ce que je peux vous dire, et une donnée qui me semble importante et qui peut être transposée dans les autres élections, c'est, voilà, je suis candidat de la liste Rassemblement National. Un certain nombre de mes électeurs ne se sont pas déplacés, car ils ne sont pas forcément préoccupés ou du moins intéressés par les questions locales. Je veux aller à la recherche des abstentionnistes. Là, vous voyez, il se trouve qu'on est plus une action militante dans un bureau qui est concerné par cette abstention. Et on va intensifier jusqu'à vendredi, jusqu'à la fin de la campagne, pour aller parler à ces gens-là et aussi pour parler sans doute à une droite qui ne veut pas de compromission, qui veut une vraie alternance et qui souvent s'allie avec le Rassemblement National. Et c'est à peu près les deux piliers pour lesquels j'ai appuyé pour gagner.
Très bien, ben merci d'avoir été avec nous dans le studio de Radio Courtoisie. Il y avait une question de Marcel G en face de moi, très rapide.
Oui, bonsoir Oscar. Je me suis renseigné donc sur la campagne et j'ai vu que Michel Génois avait proposé une liste dissidente vis-à-vis de son ancienne camarade, Madame Douvry. Je me demandais, est-ce que vous avez essayé d'effectuer un rapprochement avec ce candidat qui n'a pas été qualifié au second tour?
Je ne pourrais pas aller dans le détail. Je peux néanmoins vous dire qu'on a eu un certain nombre de convergences, un respect mutuel, et j'espère aussi, même si je ne voulais pas aller dans cette précision locale, compter sur une partie de ces électeurs qui, d'ailleurs, en fait, ont fait fronde vis-à-vis de Sophie Douvry, de ses méthodes, de sa dérive un peu vers une gauche bobo. Donc oui, je compte m'appuyer en partie sur ce socle, bien que lui soit un peu prisonnier, on va dire, de la droite départementale qui veut Douvry comme maire.
Très bien, ben donnez-nous de bonnes nouvelles, et en tout cas on en donnera aux auditeurs de Radio Courtoisie. Merci à vous.
Je vous remercie Romain, bonne soirée.
Merci. Avant de retrouver d'ici quelques minutes notre chroniqueur du Sud provençal, Raphaël Emma, je me tourne vers mes invités sociétaires chroniqueurs du jour. Est-ce que, au vu des premiers résultats, il y a des enseignements selon vous qui sortent qui...
Oui.
Jacques Fierbois de la promotion Ulysse.
Oui, donc un des enseignements, c'est que LFI n'est pas mort. La mort de Quentin Deranc ne les a pas tués, c'était prévisible. Ça s'est exprimé de manière particulièrement visible à Toulouse, où le candidat LFI a fait un score assez surprenant et passé devant le candidat PS, et on a appris très rapidement que les deux listes allaient fusionner pour le second tour, et donc sont en ballotage très favorable face aux divers droites sortants, Jean-Luc Moudenc. Et bon, au-delà de la course pour cette mairie en particulier, ça montre que LFI, malgré ses outrances, est toujours une force avec laquelle il faut compter à gauche, et que la gauche ne gagne pas sans LFI, et donc qu'elle finit par s'allier à LFI, et qu'on n'est pas sorti de ce paradigme.
Oui. Il y a une forme dans le commentaire politique de théâtre qui plaît beaucoup aux médias et aux spectateurs, la réalité du terrain. C'est que, d'ailleurs, quel que soit le côté du spectre politique, les gens se fichent un petit peu des oukases qui sont faits contre tel ou tel candidat pour telle ou telle raison. Je pense même qu'ils en ont un peu soupé. Et pour ceux qui font l'effort de sortir de chez eux pour voter, il y a même presque un geste de rébellion à aller contre ce qui est dit par les appareils ou les médias.
Oui, et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les gens votent quand même pour des idées. Et pas pour des polémiques, que ce soit à gauche ou à droite, finalement, y a quand même une adhésion idéologique à des programmes, à des visions du monde qui s'opposent, et les gens ne vont pas arrêter de voter pour la gauche parce qu'elle est violente, et même cette gauche qui fait la fine bouche avant les élections, au moment décisif, elle se rappelle que ses idées sont de gauche, et il serait bien que la droite le rappelle aussi.
Il y a effectivement une adhésion idéologique, et on le voit tout de même pour LFI. Il y a ce qui avait été un peu conceptualisé par Terra Nova au profit au départ du Parti Socialiste, c'est-à-dire un nouvel électorat populaire immigré et des profs de centre-ville. Finalement, c'est LFI qui récupère cet électorat.
Oui, alors à Saint-Denis, c'est particulièrement croustillant avec la victoire de Bali Bagayoko.
C'est crousti, c'est le nouveau voilà, fast-food à la mode.
Qui bat, et ils ont fêté ça très sobrement avec des tam-tams et des fumigènes, qui bat Mathieu Hanotin, candidat PS, et voilà, bon, c'est assez logique. Là où la démographie correspond à ce que Jean-Luc Mélenchon appelle la Nouvelle-France, il est logique que les représentants soient également issus de la Nouvelle-France, et que cette gauche blanche qui croyait pouvoir continuer encore longtemps... finalement, vit peut-être ces derniers jours.
Je crois que Saint-Just disait que la révolution dévorait ses enfants. Désormais, c'est plutôt la révolution qui dévore ses parents.
Il y a un peu de ça. Alors, nous continuons cette analyse avec donc Raphaël Emma, que j'ai au téléphone. Raphaël, vous nous entendez ?
Oui, vous m'entendez correctement ?
Oui, parfaitement. Alors, je pense que vous avez... vous êtes à la fois, vous, un acteur, mais aussi un observateur de la vie politique. Quels enseignements pouvez-vous nous transmettre ce soir ?
Tout à fait. Alors, j'ai construit un peu ma chronique aujourd'hui avec une volonté qui était celle de venir mettre un petit peu le focus sur les différentes candidatures qui pourraient rallier à la mouvance identitaire qui se sont présentées justement durant ces élections municipales. Parce que je pense qu'il y a certains endroits, certaines configurations où il y a eu des choses intéressantes et où des tendances à la droite du RN se sont dessinées. Alors, il se passe parfois des choses intéressantes dans les élections locales françaises, ça arrive. Des signaux faibles, que les grands médias préfèrent souvent ignorer, mais qui disent quelque chose de profond sur l'état de notre pays et l'avancée de nos idées. Prenons l'exemple de Segré dans le Maine-et-Loire. Dans ce territoire mêlant population ouvrière et rurale, la liste menée par Jean-Eudes Gana vient d'obtenir 21,72% des voix et 7 élus municipaux. Un résultat qui mérite qu'on s'y arrête quand on connaît la radicalité du candidat. Car ce score n'est pas le fruit d'un compromis mou ou d'un discours aseptisé. Au contraire, Jean-Eudes Gana a mené campagne sans chercher à s'excuser pour ses idées, sans chercher à rentrer dans ce fameux arc républicain qui sert surtout à exclure toute voix dissidente du débat public. Malgré la diabolisation, malgré l'absence de débat réel, la mairie sortante ayant refusé tout débat, malgré le silence médiatique, près d'un électeur sur cinq à Segré a choisi cette liste. Et pour le candidat, ce résultat, c'est déjà une victoire politique. Mais derrière les chiffres, il y a surtout des attentes populaires. Après le scrutin, Jean-Eudes nous a partagé qu'il a reçu des messages bouleversants d'habitants qui espéraient profondément un changement concret dans leur vie quotidienne. Des gens simples, souvent oubliés de la politique nationale, qui voient dans ce liste une possibilité de rupture. Leur déception empêche tout triomphalisme. Lorsqu'on fait de la politique sérieusement, on sait que chaque vote représente une attente réelle. Alors il faut aussi regarder les choses avec un peu de lucidité, moi j'ai pas envie de vous vendre du rêve. La progression, elle est spectaculaire pour un candidat identitaire. Il s'était déjà présenté à des élections partielles, cantonales, il me semble, un petit peu à Angers aussi. Mais là, il fait quand même 22% des voix. Et quand un identitaire fait 22% des voix, c'est pas par pur hasard. Une partie de l'électorat du Rassemblement national s'est reportée sur cette liste, parce que le RN était absent de ce gré. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la mobilisation d'un certain nombre d'abstentionnistes et un vote d'adhésion autour d'un programme local clair et d'un discours de rupture assumé. Quelque chose de crédible, en fait. Autrement dit, ce vote dépasse largement les seuls cercles militants. Et ça, c'est un événement historique pour la mouvance. Segré, ce n'est pas un cas isolé, puisque vous avez aussi à Dunkerque, alors ça a été largement commenté sur Radio Courtoisie, à Dunkerque, une autre liste issue de la mouvance nationale a créé la surprise en faisant 20% des voix alors qu'elle avait été désinvestie par le Rassemblement national à cause de la présence d'un porte-parole de l'Action française dessus. Là encore, malgré les obstacles, malgré l'isolement politique, malgré la pression médiatique, des identitaires, des nationalistes ont créé la surprise à échelle institutionnelle. Ces résultats, ils dessinent peut-être une stratégie politique que certains commencent à comprendre, celle de la bataille municipale. Pendant des décennies, et je m'inspire assez librement dans le commentaire de Jean-Yves Gana suite à son résultat, le Parti communiste français a construit sa puissance grâce à ce qu'on appelait le communisme municipal. Des milliers d'élus locaux, notamment dans ce qu'on appelait la banlieue rouge, des réseaux militants, une implantation concrète dans les territoires qui a même d'ailleurs laissé des traces dans les noms des rues. Quand vous allez dans les banlieues parisiennes, vous voyez des rues Maurice Thorez, des rues Stalingrad, etc. C'est ainsi que le PCF est devenu pendant longtemps le parti politique français qui comptait le plus d'élus et aussi un parti qui faisait une grande, qu'on surnommait l'Église rouge, qui était le parti qui à la fois sociabilisait son électorat. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas un identitarisme municipal, un nationalisme municipal aujourd'hui ? Dans les villes de moins de 50 000 habitants, là où la vie locale reste encore structurée par des solidarités concrètes, là où les habitants se connaissent encore, il est possible de construire une présence politique réelle. Gana vient de le prouver. Mais cela suppose un changement d'échelle. Il ne suffit pas d'avoir 3 ou 4 figures médiatiques. Gana le rappelle, il faut des dizaines de porte-paroles capables d'assumer leurs idées publiquement. Des militants capables d'ouvrir des locaux, d'organiser des réunions, de faire du porte-à-porte, de coller des affiches, de parler aussi bien aux ouvriers qu'aux retraités, aux jeunes qu'aux familles. Bref, refaire de la politique au contact du peuple, au milieu du peuple, pour notre peuple, par notre peuple. Car une autre réalité apparaît derrière ces résultats électoraux. Il y a une immense réserve d'abstentionnistes en France, notamment dans ce qu'on appelle la génération Z. Des Français qui ne votent plus, non pas toujours par indifférence, mais souvent parce qu'ils ne se reconnaissent dans aucune offre politique. Les rencontrer, leur parler, reconstruire une confiance politique, c'est tout l'enjeu pour qu'on existe. La génération qui arrive aujourd'hui à l'âge adulte aura un rôle décisif dans les décennies à venir. Entre maintenant et 2040, tout peut encore se jouer. Mais ça suppose une chose simple, sortir de la passivité, s'organiser, construire. Notre radicalité n'a jamais été un obstacle, c'est l'amateurisme qu'il est et il faut en finir avec lui. Les victoires politiques commencent toujours modestement. Un élu municipal, puis quelques-uns. Une ville gagnée, puis un réseau qui se construit. L'institutionnalisation d'une mouvance radicale, mais populaire. Segré et Dunkerque montrent peut-être que quelque chose est en train de bouger dans ce pays. Alors vous savez, il y a une citation de Bernanos que j'aime bien. C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Si la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. Alors moi je vous pose une question. Saurons-nous être à la hauteur de la fièvre qui monte ?
Merci pour ce plaidoyer pour l'engagement. Je pense qu'effectivement, il y avait des centaines de milliers de gens, et, ça, et d'ailleurs beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie, j'en suis certain, qui sont aujourd'hui conseillers municipaux ou qui vont se retrouver conseillers d'opposition. Tout ça est long, c'est un maillage à construire. Donc on entend tout à fait cet appel et un certain nombre de bons résultats vont dans ce sens. Je me tourne vers mes différents invités. Est-ce que on peut dégager d'autres enseignements ou est-ce que finalement ces résultats sont conformes au paysage politique actuel? On est quand même dans une situation, je ne parle pas forcément des élections municipales, mais de grave crise institutionnelle et politique. Quand on regarde les derniers résultats, le risque de censure, des budgets non votés, une coupure quasi totale de la Macronie des aspirations du peuple, on est quand même dans un contexte tout à fait particulier. Et bon, on a ces petits rendez-vous démocratiques qui nous font un peu croire que tout va bien, alors qu'au final, la crise est quand même sévère.
Oui, et en plus, celui-ci n'a pas beaucoup de signification, puisque sur les 35 000 communes du pays, 23 700, donc plus des deux tiers, n'avaient qu'une seule liste. 8 000 avaient deux listes et n'iront donc pas, il n'y aura pas de second tour. Et pour venir de Charente, une zone très rurale, les confrontations n'ont rien de politique. Et donc, tout ce pays qui, au présidentiel, vote RN parce qu'il fait partie de cette France périphérique, parce qu'il est affecté par une paupérisation, ne s'exprime pas vraiment dans ce suffrage politiquement. Il s'exprime sur des questions très concrètes qui sont intéressantes, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on apprend quelque chose de décisif sur la santé de, notre pays.
Le phénomène des listes uniques, là je ne sais pas s'il y a eu des statistiques qui sont sorties, mais je crois que c'est assez inquiétant. Je sais que chez moi, en Saône-et-Loire, il y a des villes de 10 000 habitants, de 15 000 habitants, qui des fois n'avaient qu'une seule liste, avec l'impossibilité, non pas de vouloir exprimer ses idées, mais des difficultés à monter les listes, d'un intérêt pour la chose publique avec des règles qui ont un peu changé dans le mauvais sens.
Oui, c'est les contraintes, le fait de devoir faire des listes paritaires, il est plus difficile de mobiliser des femmes en grand nombre, qui rend cela de plus en plus difficile, et peut-être aussi un manque d'intérêt de la part de beaucoup de gens.
Gabriel Fouquet.
Il faut aussi souligner que parmi les maires sortants, seulement 63% cette année ont choisi de se représenter, contre 72% en 2014 et 69% en 2020. Beaucoup décident de partir avant même qu'on leur suggère. Donc, si tant est qu'il y ait une liste unique, faut-il encore qu'il y ait quelqu'un qui veuille la mener? Et on observe notamment dans les petites ruralités qu'ils sont de moins en moins nombreux.
Mais beaucoup, beaucoup de coups à prendre, beaucoup de responsabilités. Le gamin qui tombe de la balançoire, c'est le maire qui part avec les menottes. C'est vrai que c'est pas toujours... Et pourtant... c'est presque, comment on appelle, on pourrait dire ça, c'est presque le mandat idéal, puisqu'on est au plus près de la population, on peut voir des transformations concrètes.
C'est peut-être celui qui est pour moi le plus sincère.
C'est
ça. Il y a des gens d'ailleurs qui ne s'engagent que pour les municipales. Et on voit néanmoins que les municipales sont sujettes à la température du pays et à l'esprit total. Les Français vont aller s'exprimer contre ou pour. Le dégagisme fonctionne toujours autant, mais au moins autant que la prime au sortant. Les chiffres ne sont pas scandaleux par rapport aux précédentes élections. Il ne se passe pas grand-chose. Par contre, ce sont des élections affectives. C'est peut-être la seule chose qui est vraiment frappante dans les municipales.
Et avec aussi le phénomène assez important, je crois, de beaucoup de maires qui sont réélus au premier tour. Notamment, on l'a vu du côté du RN ou de liste de droite qui ont réussi, entre guillemets, leur pari.
Ils ont transformé l'essai.
Ils ont transformé l'essai. Et là, pareil, on est un peu en contradiction avec une forme de théâtre médiatique qui essaye de présenter le premier parti d'opposition de France en espèce de diable horrible. Bon, les gens, concrètement, revotent pour le diable à chaque élection. C'est quand même... Voilà, il y a un décalage bizarre.
Mais encore une fois, c'est parce que, comme le soulignait Jacques tout à l'heure, on vote moins pour une idéologie au municipal qu'on ne vote pour une personne ou un projet à échelle locale. Donc, RN ou pas RN, si le bilan est bon, le bilan est bon. Et on l'a vu même dans des villes beaucoup plus grandes, y compris pas étiquetées RN. Enfin, David Lisnard, 81%, il arrive en tête dans tous les bureaux de vote de la ville. 88% la fois précédente. C'est quasiment soviétique comme résultat.
La Côte d'Azur peut faire un petit jumelage avec la Corée du Nord, c'est ça que...
Non, je ne pense pas.
Effectivement, j'ai vu ce plaidoyer. Pierre Leprince, je crois que vous aviez une première pause musicale à proposer aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Tout à fait, Romain. Alors, pour ce premier interlude, je voudrais vous parler d'un groupe actif depuis 1973, avec une dizaine d'albums au compteur, une quarantaine de concerts par an, 4 Zénith, 4 Olympia et des centaines de milliers d'auditeurs sur les plateformes de streaming, mais une exposition médiatique proche du néant. Vous ne les entendrez pas sur votre radio préférée, vous ne les verrez pas sur TF1, mais ils chantent le Sud-Ouest avec ferveur, en occitan ou plus précisément en béarnais. Accompagnés de cornemuses, de guitares électriques et de percussions diverses, ce groupe s'appelle Nadao, Noël en occitan, et je vous propose d'écouter tout de suite l'Encantada.
Patapim patapam, no sé d'on he sortido. No m'ha pas brigues piate, m'he perdut su pique, la ham i la set. Patapim patapam, no sé so qui m'arribo. I xeis na de pietat que em balu su camí, que camina tot dret. No sé palo su nom, ta jo quede encantado. Ta la bene passaggio que mi si tu matí a l'argüell no sé qual lo sonó ta jo que l'hem cantado no hi fas qui pensar la nuit el dia, el dia la nuit jo tu estic que vi sabí e dice no e dice adiu jo ja me jamais prega o minidiu haro que i plegallo iui dejen la gleis o cap baixan tamen di caso qui ui i a l'edà o su costan la 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 i la la le la terra du seu tau com l'ha periclado e tu t'ha capvirat a renunciar a mei no ja mei com abans ni lo red de la neu ni lo verde la prado ni lo cando mai nan ni la nadu surei que è curre los ans no sei pallo sonó ta jo que l'ha encantado e si nei pasta vuita du ma qui segui anirei parlar no sei parlo sonó ta jo que l'he encantado domà que ho diserei din que sí que he viscut som que t'ha p'encontrat jo tu estic que vi sabí e dice no e dice adiu jo ja m'hei n'havi ja m'hei pregat o mini diu però que hi plegar-lo llui de l'aglés o cap baixant també em dic que sóc qui vull i a l'edat al seu costat la 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 i la la lero la 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 la
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Le Libre Journal du lundi soir, présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne!
Très beau morceau de Nado, merci à Pierre Leprince de nous le proposer, et c'est vrai. Je pense qu'on peut rester un petit peu pour parler de ce groupe et du phénomène qu'il représente, qu'il est là aussi complètement sous les radars des médias. C'est un phénomène qu'on retrouve ailleurs d'ailleurs, hein. Il y a dans le cinéma, il y a des films qui peuvent des fois cartonner en province et qui ne montent même pas à la capitale et donc dans les grandes rédactions. Il y a dans l'art une forme d'art caché qui ne va pas aller jusque dans les grands musées ou dans les grandes galeries. Et donc ce groupe Nado, qui est un groupe occitan, qui se rattache d'une certaine façon un peu au mouvement néo-folk, on peut le revoir aussi en Bretagne, finalement une forte connotation identitaire, et il a su trouver son public. Gabriel Fouquet, vous qui l'appréciez aussi, c'est un phénomène important, marginal?
Alors, Nado, c'est 50 ans de carrière. C'est un grand Rex en 2025, le Palais des Congrès à guichet fermé le 7 février dernier, 3723 places. Plusieurs zéniths, 4 fois l'Olympia, le zénith de Pau avec 6 dates ajoutées à force de la demande, et 4500 places vendues en moins de 24 heures. Des millions d'heures d'écoute sur YouTube, bon, forcément en 50 ans de cumul, vous avez un public. Et surtout, Nado, ça part vraiment de la volonté de transmettre une langue. Ça a été créé par un groupe de professeurs, ils sont 3 ou 4, selon les périodes de leur existence. Et la volonté, c'était de transmettre la langue occitane qui risquait de disparaître. Et c'est un tel succès qu'en fait, les gens chantent leurs chansons sans forcément parler occitan, ils apprennent les paroles. Ça vous est sur... De la même façon que vous avez chanté Dragoș Tadindei sans parler roumain, vous pouvez chanter Nado. Et ça a même été un tel succès pour la remise en valeur de musique occitane plus classique, plus folk, qu'une de leurs chansons a été tellement écoutée qu'elle est devenue l'hymne du club de football de Toulouse. Alors que les Toulousains ne sont pas tous occitanophones, si je puis le formuler comme ça. Mais ils ne sont jamais mentionnés nulle part. Télérama n'a pas l'air fan de l'Occitanie, pourtant ils sont bien heureux d'aller prendre le soleil dès le mois de mars, quand les rayons reviennent. Et en plus de ça, il y a une volonté...
Peut-être pas assez exotique, ils aiment bien la diversité quand... Voilà.
Mais Nado, en plus, ils sont pour la part professeurs d'histoire. Et leurs chansons racontent l'histoire du pays occitan. Et c'est un groupe donc autant pédagogique que festif, finalement. C'est aussi une très bonne leçon pour les personnes d'un âge avancé. Vous pouvez rester en forme et tenir des zéniths entiers à 65, 70 ans. Ça conserve. Et mais surtout, voilà, il nous intéresse peut-être plus particulièrement ici, puisque Nado, c'est symptomatique du centralisme culturel français.
Mmh. Il commence tout de même à être âgé, groupe. Est-ce qu'aujourd'hui, donc c'est un phénomène, vous l'avez dit, ils remplissent des zéniths.
Et ils collaborent avec des jeunes.
Alors voilà, est-ce qu'en France, il y a une forme de... Est-ce qu'ils ont créé une dynamique, un mouvement? Est-ce qu'il y a une relève à Nado? Est-ce qu'il y a une relève à Trianne? Est-ce qu'il y a une relève dans d'autres régions? Je ne sais pas si parmi les amateurs de musique autour de ce plateau, Pierre Leprince, vous êtes notre spécialiste musique, est-ce que vous pensez qu'ils sont isolés ou est-ce qu'on peut en faire un porte-étendard d'autres choses?
Alors, le côté confidentiel n'exclut pas qu'il y ait un vrai public qui aime ces choses-là. Donc il y a des groupes, certainement, dont moi-même j'ignore le nom, qui cartonnent en Bretagne, qui écument les fest-noz et qui vendent leurs CD, mais qui effectivement se limitent à une zone culturelle bien définie. Après, il y a un engouement naturel effectivement pour ce genre de son, parce que tout le monde n'écoute pas effectivement les lauréats des dernières victoires de la musique, par exemple, dont on a parlé le mois dernier.
Théodora, on en a bien parlé.
Et donc, il y a un véritable engouement et une véritable appétence pour le retour à la musique traditionnelle et au terroir. Donc, un groupe comme ça qui peut devenir locomotive pour des groupes plus jeunes, effectivement, les en jouant en première partie ou en collaborant avec eux. J'ai d'autres groupes, moi, dans ma besace, dans cette mouvance, qui sont plus jeunes et qui on leur souhaite, en tout cas, auront peut-être le même succès que Nadao.
Ouais.
Mais voilà, je ne peux pas parler d'une tendance globale.
Parce que sur la réappropriation de sa langue, de sa terre, de son peuple, par les différents canaux existants, on peut sentir un petit frémissement. Là, j'ai vu une chaîne Instagram qui commençait à faire un petit peu de buzz en Alsace, tenue par des jeunes Alsaciens, qui parlaient de la langue, de la gastronomie, de ce qui faisait l'être profond alsacien. Et c'était une chaîne qui montait. Et donc, on peut imaginer qu'il y a des groupes qui peuvent suivre un peu ce mouvement. Alors, côté Bretagne, on en a parlé. Il y a quand même eu, il y a 6 mois, les artistes bretons qui ont commencé à s'inquiéter de la chute du mouvement breton, de la baisse du nombre d'élèves dans les écoles diwan, du nombre de musiciens, de sonneurs qui baissaient, des associations de maintien et de défense des traditions qui baissaient. Un mouvement assez infiltré par, on va dire, la gauche morale, qui a un petit peu embarqué les aspirations identitaires dans des délires souvent gauchistes. Et on voit souvent que le régionalisme, des fois, fricote d'un peu trop près avec la gauche et, finalement, crée les conditions aussi, des fois, de sa perte.
Il y a plusieurs facteurs, en tout cas, pour l'Ouest de la France. N'oublions jamais que, malgré son histoire, l'Ouest de la France reste un territoire profondément de gauche et républicain. Mais surtout, on paye aujourd'hui la facture de ces gauchistes qui sont les premiers à avoir un peu voulu faire ressortir les langues régionales, machin, mais qui restent profondément marxistes et donc matérialistes dans leur approche de la culture. La culture, ça se consomme, la culture, c'est folklorique. Tout le monde a un bol breton avec son prénom écrit dessus. Très peu de gens savent que c'est une spécificité de Pornic. Pornic qui aujourd'hui n'appartient plus officiellement à la Bretagne. Moi, je milite pour que Pornic y retourne, parce que c'est une terre, c'est breton, vous y allez, il n'y a pas de doute. C'était ma minute régionaliste. Mais au-delà de ça, on paye aujourd'hui la tendance folklorique de la culture et du régionalisme. Quand vous rentrez dans la question de la patrie charnelle, parce que c'est de ça qu'il s'agit, évidemment, vous êtes taxé d'être... je ne vais pas utiliser les termes parce que je ne voudrais pas que Radio Courtoisie ait des problèmes, mais on vous accuse de ne pas penser comme il faut.
Oui, oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est prêt à faire des petits Bretons, des petits Occitans, des petits Alsaciens qui viennent de très très loin, juste pour renforcer un petit peu les rangs d'un régionalisme et finalement assez folklorique, assez théâtral, assez muséographique. On n'est pas dans l'expression de la terre et du peuple.
Oui, et souvent ça s'accompagne en plus d'un besoin de se trouver une racine. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui appartiennent à ces groupes sont en fait pas du tout originaires de là. Mais en fait, les gens n'appartiennent plus à rien. Donc c'est l'ambiguité. Enfin,
ceci dit, on ne peut voir cela que d'un bon œil.
Bien sûr.
Là, on est en train d'essayer de scanner finalement le mouvement.
Et puis, on peut ne pas désespérer d'arriver un jour au stade de l'Irlande qui a une culture et une politique de protection des cultures régionales et des langues régionales, puisque le gaélique est une langue, est une langue, mais les différentes, si vous voulez, county irlandais, pardon pour l'anglicisme, ont chacun leur identité et sont protégés par l'État. Et peut-être qu'un jour, je fais ce vœu, j'y crois peu, mais je fais ce vœu, la France y arrivera.
Une petite remarque sur ce phénomène de Nado ou des groupes régionalistes. Non,
bah écoutez, on en parlait avec Jacques juste avant, mais il y a un article de la revue Élément, justement, qui dit que Nadao a été ce 68-art, bien évidemment, mais comme beaucoup de 68-art, aujourd'hui, s'est calmé. Est-ce que Jacques, tu as la phrase précise?
Oui, il a dit dans une interview, quand on lui parlait de son passé militant, « Je ne renie pas mes couches culottes, mais je n'en porte plus. »
Ah, c'est pas mal.
Voilà, ils ont eu un passé de gauchiste dans les années 70, dont ils sont détournés.
Il est devenu un chanteur identitaire régionaliste. La plupart des anciens gauchistes sont devenus des affreux néocons qui veulent faire la guerre et mettre la terre à feu et à sang, donc il s'en est quand même bien sorti.
Ce qui est intéressant aussi avec Nado, c'est que c'est... je trouve, une grande qualité artistique, et c'est un peu ce qui manque souvent dans ces choses folkloriques, parce que les instances de légitimation culturelle poussent à ne pas exprimer son terroir. Et donc, les auteurs, par exemple, je prends la littérature, mais ça vaudrait pour toutes les formes d'art, essaient d'effacer ça et de rentrer dans la collection blanche de Gallimard, par exemple, en littérature, et ce qui permet à un Mélenchon d'affirmer que les Antilles sont supérieures culturellement à la Lozère. Mais parce que s'il y a un grand auteur en Lozère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effacer, il va monter à Paris et effacer le fait qu'il vient de la Lozère. Donc avec Nadeau, je trouve qu'on a à la fois quelque chose alors que les instances de légitimation culturelle ignorent, mais qui a la qualité et a le terroir. Et c'est une alliance que j'espère qu'on va pouvoir retrouver dans les années à venir dans plus de contenu culturel.
Oui, c'est ce qui en fait une forme de puissance, parce que justement, il s'assoit sur le territoire et sans passer sous les fourches codines des appareils, oui. Pour faire le parallèle avec les élections municipales. Alors, chers amis, je voulais quand même qu'on parle du prochain colloque de l'Institut Iliade. Je vous rappelle que c'est le samedi 11 avril 2026 à la Maison de la Chimie. Vous pouvez prendre votre place sur le site Institut Iliade. Alors, il y a une nouveauté, c'est le grand bal. Donc là aussi, précipitez-vous, parce que je pense qu'on fera le plein. Et si vous voulez guincher pour des scottiches, des cercles circassiens, des mazurkas, qu'est-ce qu'il y a, Gabriel? Vous voulez pas guincher?
Non, vous m'amusez de temps en temps, Romain. Vous guinchez et vous suivez non pas des comptes Instagram, mais des chaînes Instagram. Je crois que
d'accord.
Vous vieillissez
je
légèrement.
Je boomerise. Ok, j'assume tout. Sachez-le. Non, en tout cas, la pub est faite sur un thème qui me paraît absolument majeur, c'est celui des libertés. Donc tout cela. Tous nos sujets, nous les abordons dans un contexte liberticide, c'est-à-dire que il y a tout un appareil législatif qui empêche la libre expression d'un certain nombre de sujets, de mots, de références, donc qui peuvent tout à fait cadrer la liberté d'expression notamment. On le verra d'ailleurs dans ce colloque que quand on est privé de liberté, ça peut prendre des formes tout à fait différentes. Hein. Quelqu'un qui se fait débancariser, c'est un phénomène qu'a connu l'Institut Iliade. Nous recevrons d'ailleurs Martin Sellner, un philosophe de formation qui est aujourd'hui un militant identitaire. Je crois qu'il a eu près de 100 fermetures de comptes en banque. Donc il nous expliquera comment on peut continuer un petit peu à faire vivre son idéal et à s'engager dans des privations de ce type-là. Pour un journaliste, c'est compliqué. Il y a une forme de carcan liberticide. Il y a, pour les gens qui militent, un carcan liberticide. Il y a de moins en moins de manifestations qui peuvent se passer en France parce que très rapidement, on se fait embastiller, etc. Donc évidemment, on va parler de la disparition d'un certain nombre de libertés, mais nous allons surtout nous interroger sur leur nature. De quoi parle-t-on exactement? Et peut-être que pour mener avec vous cette discussion dans ce studio et avec vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, il y a l'idée, une des idées fortes, je pense, que les libertés personnelles, individuelles, qui aujourd'hui sont absolument proclamées par tout le monde et par les politiques, mais comme par les consommateurs, prennent le dessus et sont finalement une forme de cache-sexe de ce que sont les libertés concrètes et réelles. Concrètement, aujourd'hui, des gens peuvent proclamer la liberté de changer de sexe. Les gens ont la liberté de pouvoir acheter ce qu'ils veulent, quand ils veulent, en passant par-dessus les frontières du monde. Donc il y a une forme d'hédonisme et de liberté débridée pour les individus, mais est-ce que ça ne se fait pas au détriment des libertés concrètes, collectives, politiques?
Oui, alors, la période est liberticide parce que des libertés, on pourrait dire qu'il y en a trop et qu'il faut bien faire des arbitrages entre elles, entre la liberté du professeur de donner son cours en éclairant ses élèves du mieux qu'il peut, et puis la liberté de ses élèves de ne pas être choqués, de ne pas être scandalisés, et il faut arbitrer. Et ça part du principe que d'une définition moderne de la liberté où tout le monde jouit de liberté égale, qui part de l'individu, cette fiction, plutôt que de la communauté. Et quand on accordait des libertés autrefois, on les accordait au nom de la communauté. Et par exemple, si on prend la liberté académique, c'est intéressant qu'elle se définit comme une liberté pour les enseignants d'accomplir leurs obligations d'enseignement et de recherche, donc d'accomplir leurs obligations. La liberté impliquait une obligation, alors que les libertés qu'on vante aujourd'hui n'en impliquent pas.
Et donc on a droit.
Oui.
La liberté, c'est le synonyme d'un droit à faire quelque chose.
Et qui n'implique aucune obligation. L'obligation d'un enseignant étant évidemment de chercher la vérité et de la diffuser autant qu'il le peut. Et cette liberté-là, qui a une immense valeur, qui est la richesse culturelle de l'Europe vient de là, se heurte aux petites libertés individuelles, aux petites sensibilités individuelles qui viennent lui dire non, tout cela est beaucoup trop violent.
Alors là vous avez pris l'excellent exemple de l'université et des libertés académiques. On a donc quand même aujourd'hui la liberté d'aller étudier. N'importe qui peut aller étudier comme il a la liberté d'aller voter. C'est quand même une conquête incroyable. En donnant ce droit, cette liberté à aller étudier, ça s'est fait au détriment de quoi exactement ?
L'université, elle n'a pas c'est une liberté aristocratique normalement qu'elle donne. Elle n'est pas censée accueillir tout le monde, elle est censée accueillir ceux qui sont capables de recevoir son enseignement, donc déjà ceux qui sont capables d'encaisser ces vérités parfois difficiles à entendre, et aussi ceux qui ont la capacité de, par la suite, produire du savoir. Et donc, en l'ouvrant à tout le monde, on l'affaiblit finalement. L'université, aujourd'hui, accueille trop d'individus.
Oui, on a la liberté d'aller étudier dans un endroit qui n'a pas vraiment de sens.
Voilà, où on n'apprend plus grand-chose, et où des professeurs, il y a encore eu un cas il y a quelques jours en Belgique, un professeur de philosophie, de la biologie et de l'éthique, 45 de ses collègues réclament son licenciement. Il faut dire que ce philosophe Nathan Kofnas disait que dans une méritocratie, le personnel de Harvard serait recruté parmi les meilleurs des meilleurs étudiants, ce qui signifie que le nombre de professeurs noirs tendrait vers zéro. Il a le droit de le penser, de l'exprimer normalement, c'est... D'ailleurs, tout le débat va se jouer là-dessus, ça n'a pas encore été décidé. Mais ce sont ses collègues qui veulent le censurer. Alors, peut-être certains par suivisme, mais...
Par conformisme, qui est vraiment un moteur très très puissant.
Oui, en particulier au sein de l'université, puisque dans l'université, on ne paye pas ses erreurs, on paye ses blasphèmes. Un professeur d'université peut se tromper toute sa vie, il ne tombera pas de sa chaire. Par contre, s'il dit quelque chose qui sort du cadre, là, tout peut s'effondrer. Et donc, il a beaucoup plus d'intérêt, de rationalité sociale à continuer à rester dans la norme plutôt qu'à dire ce qu'il croit au risque de se mettre à dos tous ses collègues comme ce professeur-là.
Donc, le conformisme à une forme de doxa est pour vous un peu le contraire de la liberté académique.
Oui, mais c'est quelque chose peut-être qui est cyclique dans l'université. C'est-à-dire que... Tendanciellement, c'est un lieu qui va se scléroser, qui, et c'est peut-être là un espoir, va appeler une réforme des choses à l'extérieur. On a vu ça peut-être à la fin du Moyen-Âge avec une scolastique qui devenait un peu redondante et puis qui a appelé des Montaigne, des Descartes, qui du dehors sont venus la revivifier. Et aujourd'hui, on voit des journaux commence à des journaux, des idées controversées, une université à Austin, au Texas, qui accueille les étudiants pour qu'ils puissent discuter ces questions qu'ils n'ont pas l'occasion de discuter dans les universités classiques.
Des formes d'université alternative, en fait. Hein. Puisqu'il faut quand même dire que, alors peut-être je me trompe un peu, je me tourne vers l'ensemble du plateau, que cette tradition... de la confrontation des idées, du disputatio, fait partie tout de même de notre tradition. Enfin, c'est quand même un des fondements de notre université. Quand on pense aujourd'hui que, je crois que c'est Boucheron ou Demoule, enfin un des deux, qui interdit aux professeurs de son université d'acheter des livres qui pourraient sortir de la doxa de la gauche morale hors sol. C'est-à-dire qu'il ne dit même pas qu'il ne faut pas le critiquer, le chroniquer, le lire. Il l'empêche, il interdit l'achat de... Voilà, donc on se retrouve dans une université extrêmement partisane, où il n'y a pas cette confrontation d'idées. C'est quand même une nouveauté.
Oui, parce que... Non, je pense qu'il y a quand même une forme de nouveauté parce qu'on va très loin, mais il y a eu des périodes de censure. C'est toujours une liberté précaire. Même avant l'invention des universités, on a le monde grec où, évidemment, la première forme philosophique, chez Platon, c'est le dialogue. Donc, l'idée que de la confrontation des idées va ressortir quelque chose et qu'on progresse vers la vérité dans le dialogue, elle est consubstantielle de l'Europe. Mais elle est continuellement menacée. Elle l'est particulièrement aujourd'hui, tout de même.
Est-ce que ces petites libertés individuelles, parce que c'est un présupposé que j'ai fait, seraient un obstacle à nos libertés collectives et donc politiques? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent à l'esprit, qui, en dehors de l'université, de petites libertés, ou d'ailleurs de grandes libertés individuelles, qui vous semblent aller en contradiction avec notre capacité à faire du politique? Quand vous vous déplacez, quand vous consommez, non, pas forcément?
Si, je peux penser à, parfois, et ça touche surtout les personnes de mon âge, donc assez jeunes, une certaine tentation à aller vers, par exemple, des produits, on va dire, de la malbouffe, fast-food, donc avoir la liberté de consommer ces produits-là au détriment... En fait, des 500, 600 ans de gastronomie qui nous précèdent. Et c'est tout simplement ce...
Donc, en consommant, avec cette liberté de consommer de la malbouffe, quelle liberté collective ou politique tuez-vous?
Eh bien, je tue la liberté de restaurateurs ambitieux d'essayer de maintenir notre patrimoine gastronomique. Je pense que c'est vraiment pas un service qu'on se rend... et qu'il faut à chaque fois qu'on fait cette erreur, entre guillemets, enfin je veux pas être moralisateur parce que ça m'arrive aussi de consommer ce genre de produit, il faut le conscientiser et se dire que c'est un choix de facilité qu'on fait, qu'on est libre de le faire, mais qu'on a aussi un devoir, et notre devoir c'est de préserver ce qui nous a été transmis.
Très bien, alors je redonne aux auditeurs de Radio Courtoisie quelques items des interventions. Bon, vous avez... connaissez le colloque de l'Institut Iliade, il y a toujours des expositions, des vidéos, des intermèdes musicaux. Vous aurez une intervention sur les libertés sans institution, de la liberté proclamée à l'impuissance. Une intervention de Laurent Oberton qui nous parlera de la mentalité médiévale, qui selon lui, une des pistes à suivre pour rester libre. Donc j'attends son intervention avec beaucoup d'impatience. Le prix des libertés politiques, les libertés des femmes, une constante de notre identité. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question. On peut pressentir qu'en Europe, effectivement, la place des femmes est tout à fait particulière par rapport à d'autres civilisations. Est-ce qu'elles sont réellement leur liberté un indicateur, un marqueur d'une spécificité de la civilisation européenne? On peut le présager, encore faut-il le prouver. Nous allons faire ce travail. Le professeur Jean-Luc Coronel de Boissezon nous parlera justement de la liberté de parole et de l'intelligence de l'Europe, de cette confrontation des idées. Une intervention sur la nécessité de retrouver nos libertés économiques, de refuser la nuit, c'est le terme employé par Thibaut Mercier, fondateur du cercle Droit et Liberté, qui va quand même faire un constat un peu amer sur justement la possibilité d'exercer ces réelles libertés et de tout cet appareil liberticide. Une table ronde, j'en ai parlé, sur comment on continue à s'engager quand on est un peu privé de sa liberté. Et deux plaidoyers qui seront importants, je pense. Celui de Thibaut Gibelin, qui nous parlera de la liberté nécessaire pour les peuples, pour se constituer en tant que peuple, pour rester, se maintenir dans leur être profond. Un peuple vivant doit pouvoir, d'une façon ou d'une autre, être libre, non pas asservi, non pas vassalisé. Donc il aura une vision, on va dire, un peu macro de la liberté. Et Jean-Yves Le Gallou, vous le savez, donc cofondateur de l'Institut Iliade, qui nous parlera de sortir de l'anarchie-tyrannie, faible avec les forts, fort avec les faibles, qui est au cœur du système liberticide. Voilà, je vous invite à nous rejoindre à la Maison de la Chimie le 11 avril, institut-iliade.com. Pierre Le Prince, une autre chronique musicale. Nous vous écoutons.
Et tout à fait. Alors, pour ce second interlude, je vous propose de découvrir un autre groupe aux influences traditionnelles, mais à l'audience plus confidentielle que le précédent. Il s'agit de Lisieux, qui, malgré son nom, ne vient pas de Normandie, mais de Toulouse. À l'origine, simple duo, composé d'un guitariste et d'une chanteuse, le groupe évolue désormais en quartet et joue un néo-folk inspiré de mélodies médiévales. Le morceau que je vous propose de découvrir s'intitule « Lys noir » et est extrait de l'album « Abide », paru en 2022. Bonne écoute et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique.
Autour d'un verre, le rendez-vous poétique du Libre Journal Vive la civilisation européenne.
Nous retrouvons Gabriel Fouquet qui interprète les poèmes de Frédéric de Saint-Chiot dans notre rendez-vous poétique mensuel Autour d'un verre, une chronique où elle nous partage son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple, Frédéric et Romain. Cette semaine, elle vous propose, chers auditeurs, un texte intitulé « Le foyer ».
Mon ami, abordons le sujet épineux des contes du foyer. Leur suivi scrupuleux, bon an, mal an, nous mène à traverser les mois en vivant simplement, sans perte ni fracas. Pas de folie, pas de dépenses exorbitantes, pas de congés, pas de nourriture abondante. Point d'excès dans ce qui revêt, habille et orne. C'est ainsi, et cela chasse ceux qui flagornent. L'essentiel garantit tous nos besoins primaires, mais il a des relents quelque peu délétères. Cette sobriété imposée porte un nom, mais l'écrire est trop dur. J'opte pour l'illusion. Je reprends. J'évoquais l'ascèse et ses vertus. Celle qui aide à vivre sans compter les écus. Et pourtant, si je garde en horreur le gâchis, le gaspillage aussi, l'abus, la gabegie, j'avoue aimer et offrir un présent sans raison, éviter les calculs, d'épicier, sans passion, n'écouter que mon cœur, ses recommandations pour ressentir la joie dans toutes ses pulsions. Et ça, mon cher, il nous faut à tout prix l'admettre, la disette et lyrique à ceux qui savent paître. Elle est une affliction quand elle est endurée. Comment ne pas blêmir devant ces simagrées ?
Ma douce, évidemment, j'entends vos arguments. Mais quelle est la suite à donner à votre élan ? J'approuve vos pensées, j'acquiesce vos avis. Votre constat est juste et je n'aurais mieux dit. Mais après, quelle action suit votre argumentaire ? À quoi bon geindre sans remède vulnéraire ? Nous vivons simplement, c'est un fait, c'est ainsi. Le répéter en vain n'enrichit votre vie.
Monsieur, vous me parlez ici ex cathedra ! Cessez de pontifier du haut de votre toit, redescendez à mon niveau et écoutez. Je n'avais pas fini de bien ratiociner. Je serai, selon vos voeux, plus expéditive. Ne me rapprochez pas d'être approximative. J'évoquais avec vous la veule économie, car je me projette en maîtresse du logis. Être mère au foyer, éduquer nos enfants, j'y songe, oui, comme mon tutor de beau plan. Mon tendre, dois-je aussi courir après l'argent ? La famille ne se brade pas à l'encan.
Mais c'est une ineptie !
Taisez-vous, sapristi ! Voulez-vous bien cesser d'interrompre en plein cœur la démonstration que je mène à cette heure ? Le ton combinatoire accompagnant vos gestes ne s'accorde point à votre allure modeste.
Madame, poursuivez.
Oh non, j'ai terminé.
Enfin, mon ami, vous êtes bien susceptible. J'ai parlé vite et faux, mais je suis corrigible. Je suis à votre écoute. Assis sur mon séant, discutons, ma chérie, de votre emploi du temps. Ce que vous évoquez avec moi en confiance doit être approfondi, en dépit des finances. C'était le rendez-vous poétique, donc nous saluons son auteur, que l'on embrasse très fort. Et Gabriel Fouquet, vous gardez le micro, puisque vous sortez votre boussole artistique, culturelle, et vous nous guidez avec les auditeurs de Radio Courtoisie dans les méandres de la culture.
Comment vous parlez de la liberté sans vous infliger un discours de plus sur les libertés en péril ? Je ne répéterai pas ce que nous venons de dire ce soir, ajoutons simplement que nos libertés ne sont pas toujours ôtées à un peuple. Très souvent, ce dernier les cède, volontairement. Ou plus précisément, il en confie la gestion à une autorité commune, tyran, assemblée, président jupitérien, vous voyez le problème. Vous attendiez peut-être la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix ou Va Pensiero de Giuseppe Verdi, voire même une célébration d'artistes dissidents. Mais la lycéenne en lettres que j'étais m'a rattrapée. J'ai passé, voyez-vous, mon oral du baccalauréat de français sur un extrait du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Un éblouissement. L'auteur l'a écrit au même âge que l'adolescente que j'étais alors. Il est mort à 32 ans, à peine plus âgé que la femme que je deviens. Contrairement à l'étudiante, le texte, lui, n'a pas pris une ride. Il vibre de la passion de la jeunesse, mais rayonne déjà de la sagesse érudite de l'humanisme au sens propre. Celui qui croit, dans la lignée de Cicéron, que la culture parachève les qualités naturelles de l'individu. Que l'homme est proprement façonné par sa civilisation, qu'il la porte en lui comme l'homme de Vitruve contient dans ses proportions tout le monde qui l'entoure. L'argument de la Boétie tient en quelques lignes. Un tyran ne peut rien seul. Il lui faut des gardes, des conseillers, des relais. La tyrannie n'est donc pas une force extérieure, c'est un consentement intérieur. Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre, nous dit-il. Ni geôlier, ni oppresseur dans cette phrase, juste nous-mêmes qui décidons et assumons nos choix. La Boétie n'attribue pas la servitude à la force, il l'attribue à l'oubli. Pourquoi obéit-on ? Parce qu'on a toujours obéi. Parce qu'on a cessé d'imaginer qu'on pourrait faire autrement, et la liberté qu'on n'a jamais connue ne nous manque pas, elle n'a même plus de nom. La privation la plus profonde n'est pas celle qu'on vous inflige, c'est celle à laquelle on s'habitue au point de ne plus la sentir. On ne peut vous confisquer que ce que vous reconnaissez comme vôtre. Le reste, on vous convainc simplement que cela ne vous appartient pas. Vérité inconfortable, surtout à l'heure de la victimisation permanente. Mais l'inconfort gratte, il agace, il réveille. La Boétie n'a rien publié lui-même. Son seul héritier fut Montaigne, qui dit de leur amitié cette phrase impossible à imiter et que nous connaissons tous « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Un jeune homme qui écrit dans l'ombre, un ami qui garde des inconnus, qui recopie ensuite finalement une chaîne de transmission toujours pas brisée. Et cette chaîne passe par des livres, des colloques, des salles de concert où des milliers de gens chantent dans une langue qu'ils reconnaissent comme étant la leur, une langue qu'ils refusent d'oublier. Le 11 avril prochain, l'Institut Iliade réunira à la Maison de la Chimie des Européens debout, des jeunes gens de bonne volonté pour parler de leur liberté au pluriel, pas de la liberté abstraite qu'on invoque sur une estrade le 14 juillet. De liberté concrète, incarnée, enracinée, celle qui suppose d'avoir de la mémoire, qu'on sache encore ce qu'on est, d'où l'on vient et ce qu'on refuse de perdre. Alors je voudrais terminer en m'adressant à ces jeunes gens d'avril qui ont, grosso modo, l'âge qu'avait Étienne de la Boétie quand il a écrit son discours. Lisez la servitude volontaire, ne la bachotez pas, entendez-la comme un rappel. La liberté ne se réclame pas, elle se pratique dans la langue qu'on choisit de parler, dans les œuvres qu'on choisit d'aimer, dans les questions qu'on choisit de poser et dans les combats qu'on choisit de mener. Elle se pratique en ne demandant pas la permission à qui que ce soit, elle s'embrasse. D'ailleurs, qui ici demande la permission pour embrasser ?
Merci Gabriel Fouquet. Alors, nous sommes en avance. On retrouvera une partie des références que vous avez données sur les réseaux sociaux. Suivez-nous. Il nous reste quelques minutes pour finir de parler de ce thème passionnant des libertés. On déflore le sujet. J'ai commencé, moi, de mon côté, à essayer de réfléchir sur les libertés qui me manquent, que j'aimerais reconquérir ou que je sens en disparition. C'est pas un exercice simple à faire. C'est plus la réflexion de notre ami Laurent Oberton qui m'a donné une piste, puisque en fait au Moyen-Âge, il y avait peut-être un certain nombre de libertés qui n'existent pas aujourd'hui, mais il y en a une qui devait exister et qu'on n'a plus aujourd'hui, c'est celle de protéger sa famille et son foyer, la liberté tout simplement de défendre concrètement au seuil de la porte de son foyer, pourquoi pas la cogner à la main, ce qui nous est le plus cher, ses enfants, etc. Aujourd'hui, c'est une liberté qui nous est quasi interdite. Vous connaissez un petit peu le code constitutionnel en France. Voilà, donc je pense que si on met ça sur la table, ça peut mettre un peu de profondeur sur la nature et sur finalement la nature et le degré de nos libertés. Est-ce que vous, Jacques Fierbois, je rappelle que vous êtes stagiaire de la promotion Ulysse, il y a une liberté, des libertés qui vous manquent ou qui vous semblent en danger ?
Une liberté qui me semble en danger, c'est la liberté de se promener la nuit. Parce que, en fait, une liberté, c'est pas seulement un droit abstrait, quelque chose qu'une instance nous autorise à faire, c'est quelque chose qu'on peut concrètement faire ou non. Ça n'a pas grand sens d'être libre parce qu'on nous a autorisé. Est-ce que concrètement on peut le faire ? Et se promener la nuit, peut-être un peu sous, c'est quelque chose qu'on pouvait faire plus facilement il y a quelques années qu'aujourd'hui. Et le travail sur les libertés, il est profondément politique parce que c'est ce qui va produire les libertés, ce n'est pas seulement les lois qui vont autoriser certaines choses aux citoyens, ce sont aussi les conditions concrètes. Si on n'est pas libre de se promener le soir, si on n'est pas libre de rentrer
c'est
tranquillement.
C'est intéressant, on peut quitter le cadre juridique et finalement une vision un peu contractuelle de nos libertés. Si on n'a pas... Mais vous comprenez, monsieur, vous n'avez pas signé le contrat, c'est normal que vous ne soyez pas libre. Il y a des choses qui soit se prennent, soit se font naturellement, c'est un peu ce que vous dites.
Oui, voilà. La liberté est avant tout liée à des conditions concrètes plus qu'à des lois.
Très bien. Marcel G., stagiaire de la promotion Isabelle de Castille.
Alors oui, donc au-delà d'être stagiaire de la promotion Isabelle de Castille, je suis également militant identitaire de terrain. Donc c'est un peu une tarte à la crème, mais c'est, je pense qu'aujourd'hui on perd de plus en plus la liberté de s'engager. Lorsqu'on est militant identitaire, on fait face pour n'importe quelle action à de la garde à vue. Et en fait, il faut se dire que tout militant identitaire, un tant soit peu engagé sur le terrain, va vivre comme quelqu'un sous contrôle judiciaire, va avoir des conversations qui se suppriment automatiquement.
Sans avoir commis aucun délit, en fait. C'est le simple fait d'exister, de tenir une position qui...
Nous avons des idées radicales, mais parfaitement entendables, que nous souhaitons faire et que nous souhaitons partager au grand public. Et pour cela, nous sommes criminalisés. Donc voilà, souvent pour des délits de presse, on va dire.
Oui. Au-delà de l'action,
c'est
les têtes qui sont sondées.
Exactement. Et donc c'est voilà, il y a une certaine lourdeur à chaque fois qu'on descend dans la rue. Bon, déjà évidemment de se retrouver réveillé à 6h du matin, mais surtout de ne pas pouvoir vivre normalement.
Bon, bah, je vous engage tout de même à l'engagement. Merci à tous pour votre écoute. Nous nous retrouvons dans un mois.
Vous venez d'entendre le libre journal du lundi soir, dirigé par Romain Petitjean, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 16 mars 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Et je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.